Biston klack, biston klack, biston klack, nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre, cette phrase est notre devise. Notre devise, biston klack, biston klack, biston klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie, tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre, voilà notre philosophie. Philosophie, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
Notre émission de ce jour se propose de vous éclairer sur un personnage peu connu aujourd'hui, mais sur lequel le nouveau président de la République a jugé utile d'attirer notre attention en lui rendant un hommage. Ferry serait un peu tombé à bon escient dans les oubliettes de l'histoire, si ce n'était qu'il est devenu un stéréotype de la culture bourgeoise, il serait l'artisan d'une grande œuvre, l'instauration de l'école laïque en France. Et au titre de cette image d'Épinal, il est passé à une certaine postérité. Qu'en a-t-il été et qui a-t-il été en réalité? Nous vous proposons un éclairage sur ce personnage, tout sauf révolutionnaire, à travers des extraits de conférences de l'historien Henri Guillemin en 1972, conférence pour des radios étrangères, celui-ci étant banni de la radio française pour trop de crimes de déboulonnage de statues historiques d'une part et d'apologie d'authentiques révolutionnaires comme Robespierre d'autre part. Autant d'impostures dénoncées sur lesquelles il convient aujourd'hui tout autant qu'hier de tromper le peuple si on veut le voir continuer à voter contre ses intérêts et au profit des intérêts de ses classes dominantes. En fait, si un président aurait dû être bien inspiré de rendre un hommage à Jules Ferry, il nous apparaît clairement que ce dut être le président précédent plutôt que le nouveau. Bonne écoute.
Et le fait est qu'à partir de 77, 78, surtout en 79, les choses vont commencer à changer et les inquiétudes sociales reparaissent. D'abord, la classe ouvrière reprend conscience un peu d'elle-même. Et il y a même une organisation qui, en 76, se crée pour un premier congrès ouvrier à Paris. Oh, ils sont gentils, vous savez, ils sont tranquilles, ils ne vont pas demander les 8 heures, ni les congés payés. Ils disent simplement qu'ils voudraient, par exemple, des lois de protection contre le travail des enfants ou contre les accidents du travail. Ça peut passer en 76. Mais en 78, il y avait une grande exposition internationale à Paris, et voilà que ces ouvriers-là, commençant à être lucides, avaient demandé à faire un congrès international ouvrier à Paris. Ah non, minute ça, le gouvernement de Dufort s'y était absolument opposé. Qu'est-ce que c'est? On va faire venir des Allemands, peut-être Karl Marx, ça n'en est pas question. Ils avaient essayé de passer outre et on avait procédé à 38 arrestations, dont l'arrestation de ce Jules Guesde, qui va avoir dans le socialisme français une importance considérable. Jules Guesde est quelqu'un qui, en 79, va créer le premier parti ouvrier de France. Dès cette époque, la mode est au sigle, ça sera ça, le POF, Parti ouvrier de France. Et il était allé voir, à Londres, Karl Marx. Le marxisme va entrer en France grâce à Jules Guesde en 79. Ça commence à être inquiétant, et on parle d'une résurrection de la fameuse internationale. Alors cette fois, il faut agir, hein. Les choses redeviennent dangereuses, et les opérateurs vont se trouver là, disponibles, pour protéger ce qui doit être protégé. Et quel est le plus grand opérateur? C'est une chose importante que je crois avoir à vous dire, c'est Jules Ferry. Qui c'est Jules Ferry? D'abord, c'est quelqu'un qui avait fait partie du fameux gouvernement de la défense sociale, dit nationale, et ça avait été un des ennemis les plus implacables de Gambetta. Il avait fait tout ce qu'il avait pu pour empêcher Gambetta de réussir, et il s'était donné pour principale mission, quand il était à ce gouvernement, la chasse aux rouges. Il y en avait un autre à côté de lui, qui était le chef de la garde nationale, qui s'appelait Clément Thomas, lequel a été fusillé, vous vous rappelez peut-être, le 18 mars. Clément Thomas et Jules Ferry étaient les deux personnages les plus agressifs contre les socialistes parisiens. Personnellement, c'est un homme riche, il est apparenté, grâce à sa femme, il est apparenté au milieu industriel des Vosges, c'est un Vosgien. Et comme c'est un homme qui n'est pas, si je puis dire, les yeux dans sa poche, il s'aperçoit que le danger social est là. mais une chance extraordinaire va s'offrir à lui de faire dévier l'inquiétude populaire, enfin l'alarme populaire du côté de cette pression bourgeoise, d'une façon extrêmement utile et heureuse. Quoi donc ? Quand je vous racontais l'autre jour ce que c'était que l'ordre moral, j'avais insisté, parce que c'est la vérité, sur l'extraordinaire cléricalisme qui s'y déployait. Vous avez raconté les grands pèlerinages, sauver Rome et la France, Sacré-Cœur, etc. J'avais oublié de vous dire qu'en 1875, on avait posé la première pierre de la basilique de Montmartre, qui était en effet un monument expiatoire. En fait, l'Église s'était compromise d'une manière terrible avec la droite et même l'extrême droite, tous les évêques monarchistes. Alors c'est extrêmement utile de faire semblant d'être plébéien, d'être populaire, d'être du côté de la gauche, d'être avec le peuple, en se précipitant contre l'Église. L'Église a offert, les cléricaux ont offert cette possibilité de concentrer sur eux l'attention des républicains. Et c'est parfaitement vrai qu'en effet, la classe populaire française était de plus en plus hostile à l'Église. Victor Hugo avait annoncé ça dès 1850. Il y avait un discours trop peu connu de Victor Hugo contre la loi Falloux, où il avait dit, c'était je crois le 15 janvier 1850, il s'était adressé aux cléricaux, qui distinguaient des catholiques. Et il avait dit, ne parlez donc pas de l'Église en disant qu'elle est votre mère, car vous voulez en faire votre servante. Vous êtes les parasites de l'Église, vous êtes la maladie de l'Église. Vous vous faites si peu aimer que vous finirez par la faire haïr. Mais ils avaient réussi, les cléricaux, et l'Église était haïe. Alors c'est excellent. Du moment que dans la classe ouvrière on déteste les curés, Ferry est là à se frotter les mains, en disant comme il y a une inquiétude sociale maintenant, on ne va pas parler de problèmes sociaux, pas de problèmes économiques, ça c'est défendu, mais on va parler de défense républicaine contre le cléricalisme. Et je reconnais qu'effectivement le cléricalisme était un danger. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se jeter contre les jésuites. Il était ministre de Waddington. Waddington, c'était un homme du centre-gauche, bien entendu, qui avait pris le pouvoir en 79. Waddington avait pris Ferry comme ministre de l'Instruction publique et des cultes, puisqu'à ce moment-là, il y avait le concordat. Et Ferry va décider l'expulsion des jésuites. C'est ce qu'on appellera l'article 7 de la loi de 1879. Cet article 7, ça a été effrayant. Vous savez. La droite était d'ailleurs extrêmement contente de ce qui se passait. Parce que du moment qu'on ne parlait pas des questions d'argent qui dévoraient le capital, mais qu'on parlait des questions religieuses, ça leur permettait de transférer, enfin de travestir, si vous voulez, en ferveur religieuse, leurs inquiétudes financières. Alors ils étaient extrêmement contents de voir que tout le problème se bornait à une question de jésuites à chasser ou à ne pas chasser, et ils étaient les plus énergiques défenseurs de ce qu'ils appelaient avec une majuscule la foi. Alors une énorme agitation s'était développée en France autour de l'expulsion des jésuites. On avait vu en Vendée des curés qui montaient à cheval pour organiser des équipes de paysans qui devaient s'interposer devant la troupe. En réalité, tout ça a donné surtout des scènes tragicomiques, parce que c'était pas si grave. Et tragique parce qu'il y avait des braves gens qui prenaient ça terriblement au sérieux, des officiers, par exemple, qui ont brisé leur carrière, des magistrats qui ont démissionné, qui ont perdu leur situation pour ne pas appliquer l'article 7. La presse de droite poussait des cris épouvantables. On appelait Ferry communément soit Satan, soit le démon, soit l'antéchrist, soit Néron ou Dioclétien, comme vous voudrez. En fait, c'était une agitation factice. Parce qu'on avait déjà connu en France des histoires contre les jésuites. Le roi Louis XV lui-même avait expulsé les jésuites. Et en 1827, le roi Charles X, si pieux qu'il avait des visions de la Sainte Vierge, il avait tout de même accepté, avec Martignac, déjà d'interdire l'enseignement aux jésuites. Et même, je crois me rappeler que le pape, en 1774, avait décidé la dispersion des jésuites. En réalité, tout ça était, comme je vous le dis, extrêmement factice. Ça n'allait pas loin, et Ferry lui-même avait l'intention de ne pas pousser très loin l'opération. Le seul mort, figurez-vous, le seul mort de toute cette agitation, voilà dans quelles conditions ça s'est produit. Deux étudiants très inconvenants de Paris s'étaient jetés sur un jésuite qui traversait un pont à Paris. Et ils l'avaient jeté à la Seine. C'était très vilain. Alors ces types, après avoir jeté le jésuite, ont eu honte, et un des deux étudiants a plongé pour sauver le jésuite. Il l'a sauvé en effet, seulement lui il est mort. Par conséquent, le seul mort a été l'étudiant qui, après avoir jeté un jésuite dans la Seine, était mort en essayant de le sauver.
Gardez l'amour de compagnie, ôtez Jésus de votre nom, ô vous connaît en Italie, pour la compagnie du démon.
Jamais d'ange de n'ont rien fait de plus glorieux que quand pour défendre l'Église ils vous ont chassé de chez eux.
Il ne reste plus que la
l'histoire de l'article 7, malgré le bruit qu'elle avait causé, n'était pas la grande pensée de Ferry. La grande pensée de Ferry, c'était ses lois scolaires. Et encore aujourd'hui, je sais qu'il ne faut pas blaguer sur Ferry, et qu'il y a des gens qui vous disent, oui, tout de même, c'est Ferry qui a établi les fameuses lois scolaires en France, c'est-à-dire, pour l'enseignement primaire, la gratuité, l'obligation et la laïcité de l'enseignement. Et je reconnais que c'est un travail sérieux. Il fallait lutter contre l'analphabétisme, qui était encore très répandu en France. Je ne dis pas qu'il était à 75%, mais il était bien à 40% au moins. Et bien, grâce maintenant aux instituteurs et à ces lois scolaires de Ferry, il ne va plus ou presque plus y avoir d'analphabétisme. En 1900, par exemple, lorsque les soldats arrivent à la caserne et qu'on fait le pointage de ceux qui ne savent ni lire ni écrire, il n'y en a plus que 2%. Là, beau travail. D'autre part, il était indispensable que Ferry fît la laïcité. Savez-vous qu'à ce moment-là encore, les instituteurs étaient obligés de faire réciter aux enfants leurs prières, même aux enfants qui n'étaient pas catholiques. Ben, père et mère avaient beau protester, les enfants devaient réciter leurs prières et l'instituteur avait obligation de vérifier que les enfants allassent bien à la messe le dimanche. C'était évidemment intolérable. Alors il est très naturel et très noble que Ferry ait fait ce qu'il a fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'arrière-pensée qu'il poursuivait Ferry. Et ça, presque jamais on ne le dit. C'est pour ça que je tiens beaucoup à vous l'expliquer. Ferry est un homme intelligent. Il se rend compte qu'il y a des dangers sociaux qui grandissent. En 1880, on avait laissé revenir les communards. L'amnistie avait été d'abord partielle, puis en juillet 1880, c'est une amnistie totale. On va voir revenir des gens qui arrivent de Nouméa, de la Nouvelle-Calédonie, en fait des tas d'exilés, parmi lesquels il y a des types très dangereux comme Jules Vallès. Jules Vallès qui va se mettre à attaquer très violemment Gambetta, parce que Gambetta a osé dire « il n'y a pas de question sociale ». À quoi Vallès va répondre « comment il n'y a pas de question sociale ? Il n'y en a pas d'autre ». On avait vu d'autre part des signes dramatiques. On avait vu Blanqui, vous savez, l'enfermé Blanqui, enfin, le révolutionnaire Le Rouge, qui avait été élu dans une élection partielle à Lyon. Et on avait vu Gambetta lui-même, qui, dans sa circonscription de Belleville, s'était trouvé aux prises avec une partie de ses électeurs. Il les avait appelés ilotes ivres. Il avait dit « je saurais vous retrouver jusqu'au fond de leur repère ». Enfin, vous voyez que ça allait assez mal du point de vue social. Alors Ferry est un homme qui réfléchit. Et qui va essayer de refaire ce qui s'était produit en France en 1850. 1850, c'était le lendemain des journées de juin. Journée de juin 48, vous savez, c'était la première leçon donnée au prolétariat. On avait tiré à coups de canon sur les maisons ouvrières. Et Cavaignac s'était couvert de sang et de gloire dans cette répression. Eh bien, au lendemain des événements de 1848, un homme intelligent qui s'appelait M. de Fallou avait dit « mais pour le présent, ça va, hein, la classe ouvrière est matée, elle ne bougera plus. Mais quand on est sage, il faut penser à l'avenir. L'avenir, c'est l'instruction, c'est la jeunesse. Hein. » Alors il avait fait la loi, dite la loi Fallou, dont vous savez ce qu'elle était, j'en ai parlé la dernière fois, c'était une loi qui mettait tout l'enseignement primaire et secondaire entre les mains et sous le contrôle de l'Église. Et ce que l'on demandait à l'Église, naturellement, c'est avant tout de faire bien son travail. Et son travail, c'est d'apprendre la résignation au début. De leur dire, vous savez quelle chance vous avez, ah, vous n'êtes pas très heureux sur la terre. Mais alors, l'autre côté, hein, quelle prodigieuse récompense. Et ça avait marché pendant un certain nombre d'années. Malheureusement, entre 1850 et maintenant 1880, où nous sommes avec Ferry, l'évolution s'est faite, les gens y croient de moins en moins, l'audience du curé est minime, l'histoire du paradis, ça ne marche plus sur beaucoup de gens, il faut trouver quelque chose d'autre. Alors Ferry va substituer l'instituteur au curé. Le curé restera, il lui donnera la permission de faire son enseignement, même les enfants auront obligation d'avoir leur congé le jeudi matin pour suivre les leçons de catéchisme, on ne persécutera pas l'Église, mais les instituteurs recevront des ordres très précis sur ce qu'ils ont à apprendre aux enfants. Alors ce que je vais vous dire a l'air d'un paradoxe invraisemblable, et je suis sûr que c'est vrai, Ferry, son vrai nom, c'est le Fallou laïque. Et pour vous apporter la preuve de ce que je vous dis, ce que Ferry entend exiger des instituteurs, je vais vous apporter deux petites citations. Voici une qui est tirée d'une petite histoire, petites histoires au pluriel, pour apprendre la vie, qui est un manuel qui est répandu dans toutes les écoles primaires et qu'on doit faire apprendre aux enfants. Il est signé Pierre Lallois, c'est un pseudonyme. En réalité, c'est Ernest Lavis, qui fera une grande carrière d'historien, qui finira couvert de prébendes et académiciens. Et il met en scène là un vieux savetier. Il s'adresse à son petit-fils, je crois un genou, qui est tenté par le socialisme. Et il lui dit, ce qu'il faut surtout recommander à l'ouvrier, c'est l'ordre, c'est l'économie. Par là, on s'élève. Oh, pas tout d'un coup, bien entendu. Mon père n'avait rien, j'ai quelque chose. Mes enfants, s'ils font comme moi, doubleront l'argent que je leur laisserai. Et mes petits-enfants seront des messieurs. C'est ainsi qu'on s'élève dans la société. Vous avez compris le jeu, hein? Autrefois, on leur disait « paradis à la fin de vos jours ». Maintenant, on leur dit « si vous êtes bien sage et bien docile et bien obéissant, eh bien, vous accéderez à cet autre paradis un peu plus concret qu'est le paradis bourgeois ». Ferry est un homme qui ne cesse de répéter « faites des économies aux ouvriers ». Parce que vous savez, le capital, c'est du travail accumulé. Et un humoriste, enfin, d'humour noir, dira à ce moment-là, oui, c'est entendu, ce travail est cumulé, seulement comme on ne peut pas tout faire, il y en a les uns qui travaillent, puis les autres qui accumulent. Écoutez le deuxième texte. Le deuxième texte, c'est les instructions de Pecco. Pecco, c'est un inspecteur général qui travaille au ministère. Instruction au président de l'association des instituteurs de la Seine. Ce qu'il faut que vous appreniez avant tout aux enfants du peuple, c'est la tempérance, la sobriété, l'économie rigoureuse, la privation obstinée des commodités de la vie et des plaisirs. Je crois que c'est clair, hein. Ce qu'il veut, c'est un dressage. Ce sont des instituteurs qui seront des prolétaires en veston, car ils sont très mal payés, des prolétaires en veston qui seront préposés au dressage des prolétaires en blouse. Et la plupart de ces pauvretés ne se rendent pas compte, vous savez, ils sont républicains, ils y croient à la République. Peggy les appellera les hussards noirs de la République. Et il y a eu des générations d'instituteurs très mal payés, pleins de dévouement, parce qu'ils pensaient à une République avec majuscule sans se douter de ce qu'on leur faisait faire. Ferry, c'est un homme en or, vous savez, pour le capitalisme, en or. C'est celui qui va organiser de nouveau des conventions avec les compagnies de chemin de fer, qui avait été le terrain de chasse le plus giboyeux sous Louis-Philippe, et il va remettre ça avec les voies latérales. Et c'est aussi Ferry, enfin le gouvernement des opportunistes, comme on disait, qui va décider, à l'applaudissement et à la satisfaction du patronat, la suppression du repos hebdomadaire, parce que le repos du dimanche a, comme vous le savez, une fâcheuse odeur religieuse.
Ceux qui disent que les dimanches sont jours d'ennui, d'espoir qui flanche, n'ont donc jamais mal dans le dos, pour n'avoir pas besoin de repos. Ces jours de semaine qu'on paie les comptes, qu'on se lève tôt et qu'on a honte de n'avancer qu'à pas de chat dans un métier qu'on n'aime pas. Mais c'est dimanche que s'arrêtent ceux qui ont pain et amitié. Ceux qui n'ont rien regardent couler le son des cloches sur les toits. Ces jours de semaine que les enfants dans des cahiers apprennent après combien il y a de trois dans une douzaine, combien vieillir c'est dégoûtant. Mais c'est dimanche que Tijan va voir Marie, sa souveraine. En complet bleu, c'est le seul temps qu'il tourne dos à la semaine. Ces jours de semaine que l'on enterre ses morts, ses rêves et ses folies. Ces jours de semaine que les bandits pillent les banques et tuent leurs frères. Ces jours de semaine qu'on pousse porte, qu'on offre bras, idées, talents, qu'on se fait bafouer et qu'on rapporte plaies aux épaules, plaies en dedans. Mais c'est dimanche qu'on s'arrête, comme dans le creux vert d'une baie, et qu'on enlève son collier pour oublier qu'on est des bêtes.
D'autre part, en 84, Jules Ferry avait décidé de lâcher en apparence du lest, et il avait organisé, il avait accordé les syndicats. C'est à la fin de l'Empire, la date m'échappe maintenant, 67 je crois, que Napoléon III avait accepté des coalitions ouvrières qui jusqu'alors étaient strictement interdites. Et ben, Ferry, dans la même ligne, va dire, oui, ben, je vais permettre aux ouvriers de faire des syndicats, mais faites attention, hein, il y a syndicats et syndicats. Il y aura des syndicats d'extrême-gauche avec la CGT qui va se constituer en particulier à partir de 95, mais il y avait beaucoup de syndicats patronaux. Puisqu'il était maintenant autorisé que les ouvriers se syndiquent, il y avait des quantités de patrons qui s'étaient dit, bon, ben, on va faire nous-mêmes un syndicat patronal, avec des gens à nous, parce qu'on appellera plus tard les syndicats jaunes. Seulement ceux qui représentaient la gauche dans le syndicalisme avaient essayé de faire une fédération des syndicats, et cette fédération groupée du monde, et du monde inquiétant. Mais surtout, en 1889, voilà la reconstitution de l'Internationale. Vous vous rappelez qu'elle avait été créée par Marx en 64, qu'il y avait eu toutes sortes de débats, que la Commune lui avait porté un coup terrible en France, que Bakounine et Marx ne s'entendaient pas, que finalement cette première internationale s'était perdue dans les sables, du reste elle s'était située plutôt aux États-Unis. Et voilà qu'en 89, la deuxième internationale reparaît avec Marx et avec des idées précises. Et en particulier, comme ils veulent obtenir quelque chose d'immédiat, il est entendu que les membres de l'internationale qui sont appelés en principe à ouvrir les yeux de la classe ouvrière et sur sa condition et sur sa force, vont militer sur un point très particulier, la journée de 8 heures. Journée de 8 heures, aujourd'hui, ça nous paraît assez normal. Hein. Vous n'imaginez pas à ce moment-là ce que pouvait causer de terreur et de panique dans le monde patronal, l'idée qu'il n'y aurait que 8 heures de travail. La journée de 8 heures, c'est aussi intolérable pour les marges bénéficiaires que l'impôt sur leurs revenus l'était pour la sécurité des fortunes. Hein. Alors, pas question. Or, cet international grandit. D'autre part, il arrive de l'autre côté de l'Atlantique. Des exemples dramatiques. Les ouvriers américains sont beaucoup agités, il y a même eu du sang répandu, et en 1887, il y a eu quatre pendaisons d'ouvriers à Chicago. Alors le mouvement ouvrier, la Fédération américaine des travailleurs, est puissante, et elle a décidé de demander mondialement, au prolétariat mondial, de décider que le 1er mai de chaque année, oui, c'est une importation américaine le 1er mai, que le 1er mai de chaque année, ça sera la fête du travail, on chômerait, on ferait la grève, le 1er mai, c'est la journée de l'espérance. Ben, le 1er mai 1891, en France, ça avait été une terreur, vous savez. On avait rempli de foules, de soldats, Paris. Le gouvernement avait mis 150 000 hommes, vous m'entendez, 150 000 hommes dans les rues de Paris pour lutter contre ce qui pourrait se produire. C'était rien produit à Paris parce que les types avaient été intimidés, mais dans d'autres grandes villes comme Roubaix, comme Lille, comme Marseille et comme Roanne, il y avait eu des défilés considérables, drapeaux rouges, enfin, inquiétude, terreur pour la classe possédante. C'était à Fourmies, dans le Nord, que ça avait le plus mal tourné. La manifestation de Fourmies avait été organisée par le syndicat local du Parti Socialiste. La troupe avait donné, elle avait tiré, probablement un peu trop vite, il est vrai, que les grévistes avaient lancé des pierres contre les soldats. Elle avait tiré d'une manière indiscriminée, 10 morts, dont 2 enfants. Alors ça a été la grosse émotion, hein, du sang répandu, 10 morts, ça rappelait Aubin, Larry Camari à la fin de l'Empire. Et Clémenceau, qui était à ce moment-là encore un homme d'extrême gauche, avait fait une interpellation à la Chambre pour dire ceci. Attention, les morts sont extrêmement persuasifs. Le fait primordial de la politique d'aujourd'hui, c'est l'inévitable révolution qui se prépare, le quatrième État, réclame son droit à la vie. Mirand avait demandé une enquête au gouvernement sur la façon dont on avait tiré, enfin pourquoi est-ce qu'on a tiré si rapidement. Le gouvernement refuse l'enquête et frappe qui ? Les socialistes. Ce syndicaliste dont je vais parler, le secrétaire de la section de Fourmies, va être condamné à 6 ans de réclusion. Et Lafargue, qui avait fait simplement des conférences dans la région de Fourmies, aura lui 1 an de prison.
Et la sociale se lève plus haut que nos petits bourgeois. Au 1er mai, passant les ondes par-dessus frontières et lois, ton soleil, lui, sur les deux mondes, même cœur abattu partout, même espérance triomphale dans cette clameur qui s'exhale. Debout, 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 voici l'internationale. On les terres de tous les pays, avec les 3-8 tours de vise, sous le même programme uni. Rien aujourd'hui ne nous divise, le français avec l'allemand, ceux d'Europe et ceux d'Amérique. Ah frère, croyez-vous vraiment la fraternité chimérique? Même cœur abattu partout, même espérance triomphale dans cette clameur qui s'exhale. Debout, 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 voici l'internationale. C'est pourquoi d'un cœur sûr et gai, une fête de l'histoire, nous chantons notre 1er mai, notre union c'est la victoire. Lorsque nous crions en avant, sous notre élan la terre bouge, et sur notre front claque au vent le grand frisson du drapeau rouge. Même cœur abattu partout, même espérance triomphale dans cette clameur qui s'exhale. Debout, 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 voici l'internationale.
Mmh.
traditionnellement, depuis la résistance républicaine de 1871, traditionnellement, la gauche était en apparence une gauche revancharde, une gauche nationale, nationaliste. Mais Ferry, qui était le grand homme de gauche qui était maintenant au pouvoir, je vous ai déjà dit quelle avait été sa politique en 70-71. Ferry n'avait pas été du tout un nationaliste, au contraire. Il avait tout fait, tout ce qu'il avait vu pour casser les reins à Gambetta. Et cependant, maintenant que Ferry fait sa politique scolaire, dont je vous ai expliqué l'autre jour l'arrière-pensée, le voilà qui va pratiquer dans les écoles du chauvinisme. De même qu'il a remplacé le curé à cause de son audience faiblissante, de même qu'il a remplacé le curé par l'instituteur, de même il va remplacer la religion décroissante par une nouvelle religion qu'on apprendra aux enfants et que lui-même a appelé, lui Ferry, la religion de la patrie. Alors il va organiser dans les écoles ce qu'on appelle les bataillons scolaires. C'est-à-dire que les gamins, à partir de 8 ans, 9 ans, vont faire des exercices militaires, vont avoir des petits fusils de bois, et qu'on va les dresser dans une idée de revanche.
Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Ah, jusqu'au jour où, drapeau tricolore, tu flotteras sur nos murs exilés. Frères étouffons la haine qui dévore et fait bondir nos cœurs inconsolés. Mais le grand jour où la France meurtrie reformera ses nombreux bataillons, aux cris sauveurs jetés par la patrie, hommes, enfants, femmes, nous répondrons. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais.
Les chants du soldat de Déroulède. Les chants du soldat Déroulède sont devenus le manuel officiel des petites classes. Et puis alors je vais vous lire ceci qui est de ce fameux Lavisse dont j'ai déjà parlé la dernière fois. Vous savez, Lavisse, c'était l'homme qui avait signé Pierre Laloy et qui, dans ses petites histoires pour servir à l'instruction des enfants, avait expliqué qu'il fallait surtout que l'ouvrier soit bien obéissant, qu'il fasse des économies, etc. Mais écoutez ce que dit Lavisse dans cette petite histoire de France illustrée qu'un garçon comme Peggy, par exemple, a eu entre les mains. La France a perdu sa renommée militaire pendant la guerre de 70. Pour reprendre à l'Allemagne ce qu'elle nous a pris, il faut que nous soyons de bons citoyens et de bons soldats. C'est pour que vous deveniez de bons soldats que vos maîtres vous apprennent l'histoire de France. C'est à vous, enfants, élevés aujourd'hui dans nos écoles, qu'il appartient de venger, vous entendez bien, qu'il appartient de venger vos pères vaincus à Sedan et à Metz. C'est votre devoir, le grand devoir de votre vie, vous devez y penser toujours. Il y a une image extrêmement répandue, et qui a été même reproduite en image d'Épinal, mais qui est au début un daguerreotype, qui représentait l'instituteur. Dans une classe, on voyait la classe de dos, on voyait le dos des enfants, l'instituteur était debout à droite, redingote, ça allait très redressé, et d'un geste impérieux, il désignait le tableau. Et qu'est-ce qu'il avait écrit au tableau? Bien, l'instituteur avait écrit au tableau, en grandes lettres à la craie, « Tu seras soldat ». C'était d'autant plus facile à l'instituteur qu'à ce moment-là, les instituteurs ne faisaient pas de service militaire. En fait, toujours est-il qu'il y allait à plein cœur. Le même Ferry, qui voulait que les enfants soient élevés dans ce culte de la revanche, dans ce qu'il appelait lui-même, je vous le répète, la religion de la patrie, ce même Ferry était quelqu'un qui voulait surtout n'avoir pas de problème avec l'Allemagne, qu'on s'entende en douce, hein. On tournera les esprits des enfants du côté de la fameuse ligne bleue des Vosges pour les empêcher de penser à autre chose, c'est-à-dire à la condition réelle de leur famille et à l'iniquité sociale. Mais en fait, la politique de Ferry, la politique étrangère de Ferry, est une politique d'entente avec l'Allemagne. Gambetta lui-même, dont je vous ai dit à quel point il avait évolué. Gambetta qui est devenu l'ami de Thiers. Gambetta qui avait été l'homme de la résistance. Disait maintenant à la question d'Alsace-Lorraine, hein, pensons-y toujours, mais n'en parlons jamais. Et Ferry avait besoin d'un appui allemand pour une des choses les plus capitales de sa politique, à savoir cette politique coloniale dont j'ai maintenant à vous parler. Qu'est-ce que ça avait été autrefois le colonialisme, jusque vers les années 1880-83? Ça avait été avec l'Algérie, tentative de peuplement, une colonie de peuplement, mais ça avait été surtout des entreprises de prestige nationale et aussi des entreprises nécessaires à la marine française pour avoir ses bases. Il fallait une base à Dakar, il fallait une base en Indochine, en Cochinchine. C'est pourquoi on avait vu l'Empire lui-même faire une petite guerre entre 1859 et 1862 pour un établissement français en Cochinchine. Tandis qu'avec Ferry, je vous assure que tout va changer. Il faut se rendre compte des avantages extraordinaires que Ferry a apportés à la classe possédante. On pourrait dire que c'est un des bienfaiteurs les plus considérables les classes dirigeantes. Puis, Ferry, vous rappelez déjà de ce qu'il a fait avec ses lois scolaires, et je vous ai indiqué l'arrière-pensée des lois scolaires. Je me permets de rappeler le mot que je vous ai dit et qui est assez important. Il avait voulu substituer l'instituteur au curé, mais l'instituteur était chargé de la même mission que le curé précédemment, à savoir expliquer le devoir de résignation aux classes populaires. J'ai très rapidement parlé aussi, et je voudrais vous en dire un mot tout de même, de ce qu'il avait fait au profit des compagnies de chemin de fer. J'avais dit dans un précédent entretien à quel point, sous Louis-Philippe, dans la monarchie de Juillet, les affaires de chemin de fer étaient les affaires les plus giboyeuses pour la classe possédante. Et bien déjà, on avait fait pas mal de résultats magnifiques sous Louis-Philippe, mais il y avait des voies latérales à construire maintenant. Et c'est Jules Ferry qui va donner des avantages considérables à ses compagnies en leur accordant en 83 de nouvelles conventions, des conventions que signe l'État au sujet de ces lignes latérales et avec garantie de dividendes. Ça veut dire quoi, garantie de dividendes? Ça veut dire qu'on sait très bien que ces voies latérales ne sont guère rentables. Hein. Il n'y aura pas beaucoup d'exploitation possible, mais il y aura une exploitation de la clientèle, une exploitation du contribuable, puisque c'est l'État qui va s'engager, quelle que soit la rentabilité des voies, à assurer tel chiffre de dividendes aux actionnaires. Avouez que c'est une opération formidable, hein, naturellement, au détriment de la collectivité, c'est-à-dire que c'est l'argent de l'État qui s'avancera là-dedans. Mais regardons bien ce qu'il va faire du point de vue colonial. Et là, je voudrais appeler votre attention sur un texte de lui trop peu connu, qui est un très grand discours, qu'il a prononcé le 28 juillet 1885. Ferry a été renversé, je vous l'ai dit, deux fois sur les questions coloniales. Première fois sur la question de la Tunisie, une seconde fois sur la question de l'Indochine. Et il va se justifier, ce 28 juillet, en expliquant à ceux qui ne veulent pas encore comprendre l'intérêt de ce qu'il leur propose. Et il dit: les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus avantageux. Il va même recourir à une citation anglaise, enfin de l'économiste Stuart Mill, une des meilleures affaires auxquelles ils, les pays riches, puissent se livrer. La question coloniale, déclare Ferry, c'est d'abord la question même des débouchés. La politique coloniale est fille de la politique industrielle. L'Europe peut être considérée comme une maison de commerce qui voit décroître son chiffre d'affaires, car la consommation européenne est saturée. Il faut faire surgir de nouvelles couches de consommateurs. Et la phrase qui suit est bien importante: la paix sociale est une question de débouchés. Là, il faut que je vous dise que quelqu'un avait parlé du colonialisme en termes sociaux, c'était Renan. Renan, c'est un ami de Jules Ferry, et Renan, en 1871, lorsqu'il avait écrit sa réforme intellectuelle et morale peu de temps après la Commune, il avait publié ça à l'automne 71, avait écrit la petite phrase que voici, qui est à l'intérieur du texte, il ne l'a pas enrobée, mais elle est là: un pays qui ne colonise pas est infailliblement voué au socialisme. Vous pensez que Ferry, qui est épouvanté par l'idée socialiste, avait retenu cette injonction. Alors là, il parle de paix sociale qui est question de débouchés, il explique qu'il faut une nouvelle couche de consommateurs, il n'ose pas trop en dire, bien que déjà il soit suffisamment dénudé au point d'être, à mon avis, presque obscène. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si on va dans les colonies, futures colonies, on aura des consommateurs forcés. Parce qu'on va envoyer des soldats. Les soldats obligeront les indigènes de là-bas à acheter ce qu'on leur enverra de France. En particulier les cotonnades, ça intéresse beaucoup Ferry parce qu'il est lié par sa femme au milieu des cotonniers de Vosges. En plus, ces peuples lointains, ces peuples sous-développés, ces peuples qui sont sans défense, ces peuples qui n'ont pas de canons et qui n'ont pas d'artillerie, ils ont des sols quelquefois très intéressants et des sous-sols encore plus intéressants. Songez aux forêts de l'Afrique équatoriale. Songez aux plantations d'EVA qu'il peut avoir en Indochine, il y a les arbres à caoutchouc. Alors ces forêts-là, ça peut rapporter. Puis il y a le sous-sol, c'est-à-dire des mines. Quand on parlera du Maroc, on vous dira tout de suite, il y a des mines du phosphate. Quand on va vous parler du Tonkin, on dira il y a des mines de fer et il y a des mines de charbon. Alors écoutez bien la suite. Fini, dit-il, fini l'époque des annexions modestes et à petits coups. Désormais, ce sont des continents que l'on annexe. C'est l'immensité que l'on se partage. La diplomatie trace aujourd'hui avec une activité fiévreuse ce qu'elle appelle la délimitation mondiale des sphères d'intérêt respectifs. Voilà ce qu'il dit à la Chambre. Il y a un certain nombre de députés qui prêtent l'oreille, qui réfléchissent, qui se disent « Mais oui, on n'a pas vu jusqu'à présent l'intérêt de ce qu'il nous offre. » Mais comme c'est un discours qui déborde la Chambre, bien sûr, qui va être imprimé, que tous les Français vont lire, il faut tout de même un petit vocabulaire séduisant. Alors on va voir apparaître ceci. « Ce que j'ai dit là comporte, déclarait-il, des idées de civilisation de la plus haute portée. Il faut le dire ouvertement, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Que dis-je, un droit? Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Or, il n'y a pas de doute, naturellement, race supérieure, c'est la race blanche, race inférieure, c'est celles qui n'ont pas la peau blanche. Du reste, Ferry est dans la bonne ligne, puisque M. Michelet, à la fin de sa vie, dans son histoire du 19e siècle que la mort l'a empêché de terminer, avait écrit carrément ce qui suit: être nègre n'est pas une race, c'est une maladie.
Bordeaux, Bordeaux et Nantes, et Liverpool et New York, et San Francisco, pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciels et ma crasse dans le scintillement des gemmes. Qui peut se vanter d'avoir mieux que moi Virginie, Tennessee, Géorgie, Alabama, putréfaction monstrueuse de révoltes inopérantes, marais de sang putride, trompette, absurdement bouchée, terre rouge, terre sanguine, terre consanguine. Ce qui est à moi aussi une petite cellule dans le Jura, une petite cellule, la neige, la double de barreaux blancs, la neige est un geôlier blanc qui monte la garde devant une prison. Ce qui est à moi, c'est un homme seul, emprisonné de blanc. C'est un homme seul qui défie les cris blancs de la mort blanche, tout ça l'ouverture. C'est un homme seul qui fascine les perfiers blancs de la mort blanche, c'est un homme seul dans la mer inféconde de sable blanc. C'est un moricaud vieux dressé contre les eaux du ciel, la mort écrit un cercle brillant au-dessus de cet homme, la mort étoile doucement au-dessus de sa tête, la mort souffle folle dans la canne et mûre de ses bras, la mort galope dans la prison comme un cheval blanc. La mort lui dans l'ombre comme des yeux de chat, la mort au quête comme l'eau sous l'écaille, la mort est un oiseau blessé, la mort décroît, la mort vacille, la mort est un pâturage ombrageux. La mort expire dans une blanche mare de silence.
Eh bien, dans la bonne ligne que je viens de vous définir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Première réalisation, la Tunisie. Et naturellement, au départ, une affaire d'un groupe bancaire, un groupe financier. Il y avait un groupe financier qui s'intéressait en Algérie à la ligne Beaune-Guelma. Il voulait poursuivre la ligne Beaune-Guelma jusqu'à Tunis. Mais Tunis, c'est le Bey tout de même qui dirige là. Alors il faut s'arranger avec le Bey. Heureusement que l'on a un ami auprès du Bey, un ami qu'on a acheté tout de suite. C'est un premier ministre concussionnaire qui s'appelle Mustapha Ben Ismail et qui, se servant lui-même, fait adresser par la compagnie un petit cadeau de 900 000 francs, presque un million, c'est quelque chose, hein, au Bey. Contre quoi? En échange de quoi? Le Bay signera pour la compagnie française une concession d'un territoire qui équivalait à peu près à 30 millions à l'époque et qui bientôt vaudra 80 millions. Combien ça a coûté la compagnie ? 1 700 000 francs. Par conséquent, pour moins de 2 millions, voilà six gens qui acquièrent un territoire considérable de bientôt 80 millions. Alors, il faut un prétexte pour envahir militairement la Tunisie. C'est à ce moment-là qu'on va parler des Croumires. Croumires, c'est un mot oublié aujourd'hui, mais je vous jure qu'en 82-83, on en parlait. C'était des indigènes du nord de la Tunisie qui, parfois, faisaient en effet des incursions en Algérie. Alors, les colons d'Algérie déclarent qu'il faut un droit de poursuite, poursuivre les Croumires chez eux. Une fois qu'on sera en Tunisie, on y restera. Alors, on occupe Bizerte, on descend sur Tunis, on impose au Bey le premier traité, qui s'appelle le traité du Bardo en 81. Agitation, soulèvement de la population quand elle voit arriver des étrangers. Alors, cette fois, on y met le paquet militairement. On va occuper Sfax, on va occuper Gafsa, on va occuper Gabès. Gabès, c'est l'extrême sud. Par conséquent, ça y est, tout le territoire de la Tunisie est occupé par les troupes françaises. Résultat, convention définitive, dite la convention de Marsa en juin 83, protectorat, qui est un mot gentil, hein. Protectorat, ça veut dire droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est pas une colonie, on les a pas dévorés, simplement, la nation colonisatrice et surdéveloppée vient au secours de la nation sous-développée, il la prend sous sa protection, et il y a un grand avantage pour le pays colonisateur masqué, c'est qu'il a sur place un gouvernant, qui s'appelle le Bey quand c'est la Tunisie, qui s'appellera le sultan quand il s'agira plus tard du Maroc, quelqu'un qui en échange d'avantages personnels fera la politique de l'occupant. Puis Ferry se tourne du côté de Madagascar. Madagascar, c'est les colons de la Réunion, je crois, qui ont appelé son attention sur ces nouveaux marchés de consommateurs possibles à Madagascar. Alors on commence par reporter le port de Majunga, qui est sur la côte occidentale, ça sera un port de guerre, on descend sur Tananarive, il y a tout de même quelqu'un qui gouverne à Tananarive. Oh, c'est une petite fille de rien du tout, elle s'appelle la reine Ranavalo, elle a 23 ans, alors on la dominera facilement. Alors on lui impose un premier traité où il n'y a pas encore le mot de protectorat, amitié de la France, un peu de suggestion. Les OVA, les Malgaches, n'acceptent pas ça. D'où un soulèvement. D'où ce que Ferry va déclarer à la Chambre le 28 mars 84. Ma détermination est absolue de ne reculer devant aucun moyen pour réduire ces rebelles. Qu'est-ce que c'est que ces rebelles? Mais c'est des gens qui trouvent désagréable de voir arriver des gens qui veulent leur apporter de force ce qu'ils appellent, eux, la civilisation. Si bien qu'en décembre 85, on arrive à ce que l'on souhaitait, un premier protectorat, une première domination qui n'est pas encore l'annexion, mais le petit reine Ranavalo promet d'être très gentil à l'égard des Français. Il aurait fallu maintenant occuper réellement le pays. C'est grand, Madagascar, et le corps expéditionnaire était très faible. Alors on voudrait s'employer à envoyer des soldats qui occuperont le pays, mais voilà que la pensée de Ferry est occupée ailleurs, il a de grosses difficultés dans un endroit qui l'intéresse beaucoup, et ce nouvel endroit, c'est l'Indochine. Déjà, depuis un certain temps, les Français étaient intéressés à l'Indochine, puisque sous le gouvernement impérial lui-même, je vous l'avais rappelé, il y avait une petite guerre entre 59 et 62, avec un certain nombre de premiers établissements français en Cochinchine. Mais la Cochinchine, c'est l'extrême sud. Alors on voulait remonter maintenant du côté du nord, parce que le nord, c'est le Tonkin, et que le Tonkin est une région extrêmement intéressante avec ses mines. Il faut savoir qu'en 1875, une banque avait été créée, naturellement française, une banque d'Indochine. Avec un privilège exorbitant, puisqu'elle avait créé une monnaie de papier à cours forcé. Ben, les actionnaires de la Banque d'Indochine regardaient avec une sympathie croissante du côté de ce Tonkin en se disant « Tonkin est frontalier par rapport à la Chine. La Chine, l'empereur de Chine, a même théoriquement un droit de suzeraineté sur le Tonkin. Ça va nous amener des complications avec la Chine. Pas dangereux, intéressant au contraire, étant donné que la Chine c'est un géant qui dort, c'était l'expression qu'on employait, absolument incapable de se défendre. Par conséquent, on va pouvoir régler son compte aux Chinois aussi, et avancer, plus exactement, dans la très riche vallée du Yunnan. Il fallait un prétexte encore là. Ben, vous vous rappelez qu'au moment de l'affaire de Tunisie, on avait trouvé le prétexte des Croumires. Ces Croumires, c'était des agités, en effet, enfin des gens qui défendaient leur territoire, et dont on avait dit, il faut absolument réduire les Croumires parce qu'ils gênent nos colons d'Algérie. Et ben, les Croumires d'Indochine, ils s'appelleront les Pavillons Noirs. Pavillons Noirs, c'est des gens qui se défendent quand ils voient arriver les Français, et on va dire, ce sont d'épouvantables pirates qui débordent de la Chine et qui viennent nous ennuyer, nous, dans notre pénétration pacifique, Dieu sait, du Tonkin. Alors, en effet, il va y avoir une guerre avec la Chine. On va d'abord avancer dans la direction de la Chine, il y a l'amiral Courbet qui va bloquer les côtes, on va faire un bombardement de Hue. Vous savez, Hue, ça se trouve à peu près au centre de l'Indochine, sur la côte orientale, et puis on monte dans la direction de la Chine elle-même. Toujours, cet amiral Courbet, qui vraiment rend des plus grands services, va organiser un blocus de la Chine après un bombardement de Fuzhou. Fuzhou, c'est pas en Indochine, hein, c'est en Chine. Et on va même organiser le blocus du riz. L'idée qu'a eu Jules Ferry et l'idée d'amiral Courbet, c'est d'essayer de les prendre par la famine. Comme ils se nourrissent de riz que produisent pas du riz en quantité suffisante, qu'il en arrive d'ailleurs, eh bien on va les empêcher de recevoir leur riz. Je crois que lorsque nous pensons aujourd'hui au problème de l'Occident et de la Chine, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à ce moment-là. L'Occident et la France en particulier essayant d'affamer cette Chine. Alors on a envoyé un corps expéditionnaire, 16 000 hommes, c'est quelque chose tout de même, sous le commandement du général Négrier. Monsieur Bourgeois, dont je vous ai parlé, Émile Bourgeois, l'homme de la, du manuel politique étrangère, a une expression charmante pour Négrier. Il était habitué au procédé des expéditions coloniales, ça en dit assez long. Alors Négrier, avec ses 1000 hommes, monte dans la direction du Tonkin, ça commence à aller très bien, mais voilà qu'en mars 1885, le général Négrier a une difficulté assez grave à Langson. Il est vrai que les premières dépêches qui arrivent à Paris exagèrent le désastre. On croit que l'armée française a subi une défaite absolument humiliante devant ces Chinois qui sont mal armés. En fait, c'est vrai, on avait été obligé de reculer, mais ça n'avait pas les proportions que l'on croyait. Néanmoins, c'est là-dessus que Ferry va tomber. Clémenceau et d'autres vont se précipiter sur lui en disant « Vous nous couvrez de ridicule, vous nous couvrez de honte, vous faites massacrer les soldats français par des gens qui sont soi-disant plus faibles que nous et qui nous ont obligés à un recul désastreux. » Veillons.
Pour que je finisse mon service, au Tonkin je suis parti. Ah, quel beau pays, mesdames, c'est le paradis des petites femmes. Elles sont belles et fidèles, et je suis devenue chérie d'une petite femme du pays qui s'appelle Mélapolie. Je suis gobée du petit, c'est une nana, dynamite. Allez vivre les charmantes, c'est comme un zozio qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkinki, ma tonkinki, ma tonkinoise. Il y en a d'autres qui me font les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Le soir on cause des tas de choses avant de se mettre au lit. J'apprends la géographie de la Chine et de la Mandchourie, les rivières, les rizières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Y'a même l'amour, c'est curieux, qui arrose l'empire du milieu. Je suis gobée du petit, c'est une nana, c'est une nana, c'est une nanamite. Allez vivre les charmantes, c'est comme un zozio qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkinoise. Y en a d'autres qui me font les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Très gentille, c'est la fille d'un mandarin très fameux. C'est pour ça que sur sa poitrine, elle a deux petites mandarines. Peu gourmande, elle demande quand nous mangeons tous les deux. De la banane, c'est peu coûteux, j'y en donne autant qu'elle veut. Je suis gobée d'une petite, c'est une nana, c'est une nana.
La politique coloniale de Ferry comportait évidemment des complications extérieures et des complications intérieures. Complications extérieures. Je voudrais employer là une comparaison que vous me pardonnerez, elle est peut-être un peu indécente. Lorsque des bandes de gangsters essayent de mettre une ville en coupe réglée, lorsqu'ils organisent leur racket, vous savez, et qu'ils décident tel coin de la ville m'appartient et tel coin de la ville t'appartient à toi, il est assez forcé que les bandes rivales arrivent à se heurter. Eh bien, élargissons ça à l'échelle du monde. Il y a des nations occidentales qui se jettent sur des peuples sans défense et qui finalement se trouvent en conflit. Elles se heurtent. Alors, vous savez, comme on dit dans un vocabulaire un peu particulier, à ce moment-là, on défouraille, on sort son artillerie. C'est exactement ce qui va se passer. La France va se trouver en compétition, en particulier avec l'Angleterre, parce que les convoitises françaises et les convoitises anglaises, qui sont des convoitises financières et commerciales, se heurtent, s'affrontent. Pas avec l'Allemagne. Et ça, c'est assez intéressant. Je vous l'ai dit, Bismarck ne veut pas avoir de difficultés avec la France. Il a trop à faire avec ses problèmes intérieurs. Il n'a pas encore découvert, les Allemands n'ont pas encore découvert à ce moment-là, en 84-85, les avantages de la colonisation. Et Bismarck sera d'une complaisance incroyable à l'égard de la France. Voici des textes de lui, au comte de Courcelles, qui est l'ambassadeur de France à Berlin. « Nous sommes prêts à vous donner satisfaction afin de vous détourner de souvenirs pénibles. » Souvenirs pénibles à la Lorraine. Hein. « Tout ce que vous pourrez prendre dans le monde, nous sommes d'accord, parce que ça vous fera oublier ce qui nous est arrivé malheureusement tous les deux. J'ordonnerai, je suis prêt à ordonner l'évacuation de territoires occupés par des ressortissants allemands partout où ces prises de possession commerciales ne s'accorderaient pas avec les droits de la France. » Il est gentil en parlant de droits. Vous voyez cette politique très, très conciliante dont Ferry fait son profit. Mais c'est du côté de l'Angleterre que ça ne va pas aller tout seul. Les Anglais avaient un peu froncé les sourcils pour la question de la Tunisie, mais enfin on leur avait promis que les vieilles revendications qui dataient de Bonaparte de la France sur l'Égypte seraient oubliées. On n'avait pas pris un engagement absolument formel, mais on avait dit oralement comme ça, si vous ne laissez les mains libres en Tunisie, eh bien écoutez, on ne s'occupera pas de ce que vous faites en Égypte. Les Anglais avaient débarqué un corps expéditionnaire en 1882 en Égypte. Ils avaient annoncé que c'était un corps expéditionnaire tout à fait temporaire, que l'évacuation serait rapide. En fait, vous pensez bien, jamais ils ne vont évacuer l'Égypte et qu'ils y resteront jusqu'à 1938 et au-delà. Alors, du côté de l'Égypte, ça peut aller tant qu'on n'en reparle pas. Mais on va en reparler bientôt. Et on va arriver en 1898 à une extrême tension franco-anglaise sur cette question même. Et du côté de l'Indochine, les Anglais s'inquiètent aussi, parce qu'ils ont mis la main sur la Birmanie d'une part, ils ont le Siam qu'ils considèrent comme leur propriété, et voilà maintenant les Français qui sont à Hué, qui s'avancent vers le nord. Alors on verra les Anglais pousser le roi de Siam à essayer une offensive pour couper l'Indochine en deux. Hué, je vous l'ai dit, est à peu près à mi-chemin, enfin, entre le Tonkin et la Cochinchine, et le roi de Siam doit attaquer sur Hué. Les Français arriveront à faire une opération, comment dirais-je, persuasive devant Bangkok. On ne bombardera pas, mais on enverra des cuirassés, et le roi de Siam ne bougera pas. C'est la politique intérieure qui est compliquée, parce que voilà que Ferry, dans son fameux discours dont je vous ai parlé tout à l'heure, du 28 juillet 85, a fait une déclaration stupéfiante. Il a dit en effet, « Au nom d'un chauvinisme exalté et à courte vue, devrions-nous, les yeux fixés sur la ligne bleue des Vosges, laisser tout se faire et tout se résoudre autour de nous, sans nous. » Pas croyable. Ferry, mais c'est l'homme de la ligne bleue des Vosges. Et c'est lui-même qui dit en 85, vous savez, non, c'est du chauvinisme exalté et un peu étroit que d'avoir les yeux fixés sur la ligne bleue des Vosges. Il faut regarder ailleurs. Alors vous imaginez ce que Clémenceau, qui représentait à ce moment-là le nationalisme le plus exaspéré, veut dire. Enfin, c'est insensé, vous voulez nous faire oublier ce qui est essentiel pour la France, à savoir la revanche. C'est la droite aussi qui est intéressante. Elle n'a pas encore pigé la droite. Elle ne sait pas les bénéfices qu'elle peut retirer des opérations coloniales. Alors on voit un monsieur Cassagnac. Cassagnac qui représente l'impérialisme, le bonapartisme, et qui dit « Ce que vous déclarez là, monsieur Ferry, c'est l'apologie de la guerre. » Et le comte de Baudry-Lasson va dire « Très bien, la République, c'est la guerre. Nous ferons imprimer votre discours à nos frais et nous le reproduirons dans toutes les communes de nos circonscriptions électorales. » Ferry va se tourner du côté de la gauche et dire « Mais vous ne comprenez pas ce que je veux faire là-bas. Ce que je veux faire, c'est aguerrir le soldat français. C'est montrer la preuve de notre vitalité. Une démocratie qui ne veut plus se battre, quel désastre et quelle affliction, dit-il. » À ce moment-là, Vallès, qui a repris la direction de son cri du peuple, va faire une certaine réponse, qu'on connaît peu et qui est intéressante. « À guérir nos troupes, dit-il, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va les envoyer tuer du jaune pour les exercer à tuer du blanc, et qu'après avoir tué sans peur des coulis, il viendra tuer maintenant nos ouvriers. Et comme il ne veut pas se faire poursuivre pour cause d'excitation à l'insoumission, Vallès va conclure son édict en disant « Vas-y, jeune soldat, tu te feras payer du chien au riz dans les bateaux de fleurs, et tu reviendras avec la peste dans le sang. » Que Ferry se rassure. Bientôt, la droite va comprendre tous les avantages qu'on lui propose. Et même, en 1883, Ferry, le 14 octobre 83, dans ce discours au Havre, n'a pas hésité à dire « Le péril est à gauche », ce qui rassure beaucoup les possédants, si bien que personne ne protestera du côté de la droite quand on enverra pour la première fois un résident général en Annam et Tonkin, et ce résident général couvert d'or sera le même Paul Bert, qui s'était manifesté dans la politique scolaire de Ferry par une si violente crise d'anticléricalisme.
Mamadou m'a dit, on a pressé citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, On a pressé le citron, on peut jeter la peau.
Les citrons, c'est les négros, tous les négros d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, Haute-Volta, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tutti quanti, Cameroun et tutti quanti.
Les colons sont partis avec des flonflons, des discours solennels et des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, qu'on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris.
Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau.
Les colons sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite, des noirs bien blanchis.
Le monde blanc rigole, les nouveaux c'est bizarre, sont pires que les anciens, c'est sûrement un hasard.
Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacrer empereur avec mille glorioles. Après tout, c'est pas grave du moment que les terres produisent pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, la machine, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts.
Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau.
Après tout, c'est pas grave, les colons sont partis, que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent.
Les colons sont partis, avec dans leur bagage, quelques bateaux d'esclaves pour ne pas perdre la main.
Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues, ils se ressemblent tous avec leurs passe-montagnes. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur. Là-bas c'est la famine et ici la misère. Et puisqu'il faut parfois manger et puis dormir, dans les foyers taudis, on vit dans le sordide.
Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau.
Et puis un jour la crise nous envahit aussi, qu'on les renvoie chez eux, ils seront plus heureux.
Qu'on leur donne un pouvoir, faut être libéral.
Et quant à ceux qui râlent, un bon coup de pied au cul.
Vous comprenez monsieur, c'est quand même pas normal. Ils nous bouffent notre pain, ils reluquent nos femmes.
Qu'ils retournent faire les singes dans leurs cocotiers, tous nos bons nègres à nous, qu'on a si bien soignés.
Et puis ce qui est certain, c'est qu'un rien les amuse, ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau.
Notre émission de ce jour était consacrée à un éclairage sur l'homme politique Jules Ferry, proposé par l'historien Henri Guillemin en 1972, à travers un montage de notre réalisation. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes: Contre les Jésuites, interprétée par le Quatuor de la Cité, puis c'était la chanson de Félix Leclerc qu'il interprétait lui-même les dimanches, puis vous avez entendu Rosalie Dubois interpréter le texte de Charles Gros, Marche du 1er mai, sur une musique de Fenouille. Ensuite, c'est Germaine Montero qui interprétait un extrait d'Alsace et Lorraine de Wilmer et Nazet sur une musique de Bentayou. Puis c'est Bernard Ascal qui interprétait le texte de Aimé Césaire qu'il a mis lui-même en musique, Toussaint l'ouverture. Ensuite, vous avez entendu La petite tonkinoise de Vincent Scotto sur une musique de Georges Villard et Henri Christinet dans une interprétation de Catherine Benoît. C'est un document inédit enregistré au Feu le Confluent le 14 décembre 1994. Et puis, vous avez entendu une version de Mamadou m'a dit de François Béranger, par les élèves de Pierre Delorme. C'était une prestation scénique de 31 mai 2012 à l'Iris, le thème du spectacle étant « Que la France était belle au temps des colonies ». Bonsoir.
Quand il chante la femme, son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, claque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, claque. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en même mètre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les mise, mais on les claque.
Thank you.
sans flamme, c'est Bistan Club. C'est pas de la rengaine, la gavelise passant, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistan Club. Le printemps, qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les mise, mais on les claque. Bistan Club.